Bonjour à toutes et à tous, au micro Serge Bounic du groupe Tislet de l'Académie d'Orléans-Tours. Je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de notre 15e émission des souris et des lettres. Comme vous le savez maintenant, celle-ci est parrainée par Madame Pinsard, IPR de lettres, et elle est pilotée par Adeline Buisson et Philippe Godiveau. Vous pourrez également écouter les interventions de Karine Lanista, de Clément Bigot, de Marie Pourriot, d'Angélique et Baptiste Voisin, ainsi que celle de Jean-Luc Riffaut. La réalisation de l'émission est aujourd'hui assurée par notre spécialiste, Christelle Delasse, avec les moyens techniques du CRDP d'Orléans, que nous remercions pour son accueil toujours aimable et efficace. Si l'on croit que le métier d'enseignant de français est celui de professionnel figé dans des conformismes ou des pratiques routinières, on se trompe grandement. Chaque professeur a quotidiennement conscience d'être confronté à une culture de l'écrit en plein bouleversement. De fait, pour nous tous autour de ce micro, il n'est pas question d'ignorer ces phénomènes et d'isoler l'école des réalités que vivent nos élèves en ce début du XXIe siècle. En même temps, nous assumons bien la responsabilité de transmettre des valeurs et des compétences liées à un humanisme culturel qui élève l'esprit de ceux qui se l'approprient. Voilà pourquoi nous avons choisi d'aborder aujourd'hui la question suivante. Comment combiner écriture manuscrite et écriture numérique du primaire au supérieur? C'est bien sûr Adeline Buisson qui est chargée d'ouvrir les pistes de notre réflexion, mais aussi de rappeler la cohérence de notre démarche dans cette émission des souris et des lettres. Écoutons son édito.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour à tous. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé de la complémentarité entre lecture et numérique. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la complémentarité entre l'écriture manuscrite et l'écriture numérique. Il ne vous a sans doute pas échappé, il y a quelques mois, au mois de septembre 2013, une actualité intéressante outre-Atlantique. 45 des 50 États américains ne prévoient plus vraiment l'enseignement de l'écriture manuscrite, de l'écriture cursive, mais plutôt la maîtrise du clavier. Il ne s'agit pas évidemment d'éradiquer complètement là-bas l'écriture manuscrite, hein, soyons précis, mais je ne vais pas déflorer la chronique d'Angélique qui va revenir plus précisément sur cette actualité qui fait encore débat aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là encore dans l'Hexagone, mais il nous faut toutefois trouver maintenant la bonne combinaison entre l'écriture manuscrite et la saisie au clavier. Vous savez, très chers auditeurs, que j'aime vraiment lutter contre les préjugés, et en particulier ceux qui touchent nos élèves, nos enfants et leurs pratiques numériques. Vous savez également que j'aime me référer à des études scientifiques. Ça doit être, je pense, mon côté cartésien paradoxal. Une enquête a été menée par des collègues scientifiques belges l'an dernier, en 2013, pour mettre en lumière les pratiques d'écriture des jeunes à l'ère d'Internet. Eh bien, figurez-vous que cette étude nous montre que les jeunes d'aujourd'hui écrivent toujours autant. Eh oui, que l'écrit est omniprésent dans leur pratique numérique et qu'il existe, attention, c'est important, qu'il existe chez nos jeunes un réel conformisme par rapport à la norme orthographique. Étonnant, n'est-ce pas ? Ce que je retiens, moi, de cette étude en particulier, et ce que je prône chaque jour dans ma vie d'enseignante, mais aussi dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, c'est que l'écriture fait valeur et qu'elle introduit une dimension morale. Son enseignement, pour moi, n'a absolument pas de prix. L'écriture est vectrice d'émotions. Chaque support trouve sa finalité. Par exemple, je vais très facilement écrire une lettre administrative à l'ordinateur, évidemment, mais une lettre d'amour. Non, il me reste la plume tout de même. Alors, comment pouvons-nous, nous enseignants de lettres, articuler l'enseignement de l'écriture manuscrite et l'écriture numérique? Tout au long de notre émission, vous allez entendre les conseils et les pistes pédagogiques de mes brillantissimes collègues, dont les rubriques vont témoigner toujours de leur capacité d'innovation tout autant que de leur passion. Écriture numérique, écriture script et manuscrit, voilà un débat qui est très intéressant à mener avec les élèves. Je vous renvoie à des témoignages écrits de deux auteurs, Camille de Toledo et Cécile Portier, sur leur propre pratique d'écriture aujourd'hui. Vous trouverez les références des études et des témoignages sur notre site de la Web Radio. Et je vous lâcherai très doucement la main, chers auditeurs, sur ces derniers mots de Camille de Toledo. Écrire aujourd'hui, dit Camille de Toledo, c'est expérimenter le vertige de ce qui est duplicable à l'infini et le vertige d'un texte écrit sur un code qui est lui-même un langage. Très bonne émission.
Les souris et les lettres.
Expérimenter le vertige du texte. Voilà le programme particulièrement enthousiasmant que nous propose Adeline. Et je crois bien que Karine, Marie et Clément ont été des auditeurs attentifs de son édito, car ils ont conçu un sujet du jour qui nous invite à explorer les infinis de l'écriture en même temps que ceux de l'imagination. Eh bien, Karine, je crois que tu es notre première hôtesse à nous ouvrir la voie dans un fascinant univers des lettres.
Tout à fait. Et je vais vous présenter un jeu sérieux, Typewriter, ou plutôt Type2.Rider, qui est un jeu coproduit par Arte, lequel nous propose de voyager au cœur de différents univers de typographie. Le joueur, dont l'avatar se présente sous la forme de deux points, on remarquera à cet égard le titre du jeu, qui souligne cet avatar de façon assez mystérieuse, codé même, on pourrait dire, comme pour nous faire bien comprendre que l'écriture est un code. Le joueur, donc, est invité à collecter les lettres de l'alphabet et surtout des astérisques pour reconstituer un codex de 600 ans d'histoire de la typographie. C'est par ce biais que se fait l'accès au contenu informatif, après avoir franchi une série d'obstacles représentés par des lettres géantes correspondant à l'univers typographique dans lequel on se trouve. Si le graphisme de Type2.Rider semble s'apparenter au jeu Limbo, celui-ci se veut volontairement onirique. On voyage au cœur de la belle lettre, à travers l'esthétique et la musicalité. Ainsi, on aura une atmosphère religieuse pour Gothic ou bien une ambiance western pour Clarendon. De plus, l'objectif de Type2.Rider est très clairement ludopédagogique. L'information empruntée à la BNF se veut précise, mais non exhaustive, et s'offre aussi bien comme une découverte que comme un trophée, une récompense. Il faut noter que le jeu est payant pour les tablettes numériques, mais que les 5 premiers univers sur les 9 au total sont gratuits sur PC. Cela laisse place à une utilisation possible avec des élèves. Oui, mais alors quelle utilisation ? On pourrait imaginer, par exemple, faire retrouver l'information sans avoir présenté le jeu auparavant. Les élèves pourraient ensuite en faire une présentation orale ou écrite et montrer ce qu'ils ont été amenés à observer. On pourrait aussi proposer un travail de groupe pour collecter les informations, les uns sur le jeu, les autres sur le site de la BNF, et ensuite comparer les résultats obtenus entre les différents groupes. De plus, comme Type2.Rider comporte aussi une version Facebook, les internautes pouvant se lancer des défis en écrivant une phrase, on peut imaginer un exercice autour de la rédaction de défis. Plus simplement, dans la mesure où Type2.Rider permet d'abord une immersion poétique dans le signe graphique de l'écriture, dans ses moindres détails, on peut donc l'utiliser comme préalable à un travail des recherches plus complexes et plus approfondies sur le site de la BNF. Mais je vais laisser Marie vous évoquer le site de la BNF plus en détail.
Merci Karine. Alors je vous propose effectivement de découvrir un dossier proposé par la BNF qui s'appelle « L'aventure des écritures » et qui est présenté comme un voyage à travers tous les temps et tous les univers. Alors à travers ce dossier, le professeur peut engager un travail de recherche précis avec sa classe, par exemple sur les mythes, sur les alphabets, ou aborder un travail d'écriture intéressant grâce à l'un des parcours pédagogiques proposés. Il peut ainsi faire le lien très aisément entre l'écriture manuscrite et l'écriture numérique. Alors le dossier compte 7 parties. Une première consacrée au récit, où la BNF met à disposition des petits films qui retracent l'histoire des écritures. On y trouve des reproductions de manuscrits, de statues, de brouillons d'écrivains, autant de pièces précieuses qui sont accessibles grâce à Internet. Alors tout y passe, l'histoire de la naissance des écritures, les supports utilisés, les matériels, la calligraphie, etc. Une deuxième partie, en images, où la BNF propose un atelier où chaque rubrique est composée d'un diaporama. La première, par exemple, retrace la naissance des écritures depuis son apparition en Mésopotamie. Chaque œuvre est accompagnée d'un texte explicatif et l'utilisateur a la possibilité d'avoir accès aux œuvres en gros plan ou à des explications audio sur certains supports. On y trouve même des extraits de mythes de divers pays du monde, intéressants pour un projet d'écriture en sixième, par exemple. Une troisième partie qui s'intitule « Arrêt sûr » et qui vient compléter la précédente. Alors, si l'on souhaite tout savoir sur les écritures cunéiformes, aztèques, égyptiennes ou sur les alphabets, on peut profiter de ce dossier. Chaque sujet est traité par un texte explicatif accompagné d'illustrations. Une quatrième partie, gros plan, qui propose ici 11 ateliers découvertes, dont l'arbre à alphabet, par exemple. L'élève n'a alors plus qu'à écouter et se laisser guider par les explications et les récits qui sont faits. Le professeur peut proposer par exemple cette activité en parallèle de la découverte de l'éducation de Gargantua et Pantagruel en cinquième. Une cinquième partie, album, dans laquelle la BNF a rassemblé de nombreuses œuvres accessibles sous forme de diaporama également, autour de deux thèmes, les scribes et l'imprimerie. Alors ici, le professeur peut sélectionner un ensemble d'images et les projeter en gros plan en classe entière. Une sixième partie, qui s'intitule classe. Alors ici, le professeur trouve à sa disposition cinq parcours pédagogiques. Alors je vous propose un exemple, drôle de lettres et pages en fait. Alors cet atelier est un atelier d'écriture en ligne. Les élèves ici ont accès à une page d'écriture dans laquelle ils sélectionnent le fond de leur page, choisissent l'alphabet qu'ils souhaitent et peuvent en utiliser plusieurs. Pour conserver leur travail, ils peuvent imprimer une trace de l'activité, ce qui permet de faire le lien entre l'écriture manuscrite et numérique. Une ultime partie ressources dans laquelle vous trouverez un glossaire et une bibliographie sur le thème. Autant de ressources intéressantes donc, accessibles facilement pour découvrir ou redécouvrir l'histoire des écritures. Mais maintenant je vais laisser la parole à Clément qui va vous en dire un peu plus sur les métamorphoses de l'écriture à l'heure du numérique.
En effet Marie, pour compléter tes propos ainsi que ceux de Karine, au sujet de l'histoire de l'écriture et de la littérature, je vais pour ma part vous faire part d'un bref compte-rendu au sujet de ce qui a pu être dit lors du plan national de formation qui a eu lieu à Paris au mois de novembre 2012. Le thème était « Les métamorphoses de l'œuvre et de l'écriture à l'heure du numérique vers un renouveau des humanités ». Alors, d'abord, il faut retenir le fait que ce colloque a permis de relever qu'on s'est posé, que l'humanité s'est posé les mêmes questions et a porté les mêmes attaques lors de la seconde moitié du XVe siècle, c'est-à-dire lors de la découverte et de l'expansion de l'imprimerie, que maintenant. S'agit-il de pillage ? Qu'en est-il de la commercialisation des œuvres ? Qu'en est-il de la forme des pages ? Est-ce qu'elles seront abolies ? Qu'en est-il du statut et des droits de l'auteur ? Antoine Compagnon observait que les mêmes questions ont d'ailleurs été reposées lors de l'invasion, entre guillemets, des livres de poche durant les années 50 et 60. Alors certes, l'œuvre littéraire évolue. Certaines œuvres numériques sont enrichies, au même titre que certains manuels scolaires. Et elles parviennent à lier musique, peinture et littérature. Pour observer ce phénomène précurseur qui prouve l'existence du concept d'humanité nouvelle, d'humanité numérique, je vous invite, chers auditeurs, à vous rendre sur le site desprises.fr qui a été créé par l'universitaire et auteur Serge Bouchardon. Cependant, on observe que le livre, s'il a bel et bien évolué au cours de ses révolutions historiques, n'est pas mort. En France, la vente des livres numériques augmente d'un point et demi chaque année, depuis 2011. Et pourtant, les éditeurs de livres papier publient de plus en plus de livres chaque année. L'éducation nationale tend d'ailleurs à prouver que la culture générale n'est pas morte, et que l'expression « humanité numérique » n'est pas un oxymore. D'ailleurs, au cours de ce colloque, plusieurs scénarios pédagogiques combinant écriture manuscrite et écriture numérique ont été présentés et fondent la réalité de ce constat. On a pu observer, par exemple, le fait que certains professeurs invitent leurs élèves à utiliser le réseau social Twitter en cinquième pour travailler le haïku et ainsi les rapports entre forme et sens poétique. On crée alors, il faut oser le mot, je crois, à la suite d'un journaliste du monde des livres, de la twitterature. On a pu également observer le fait qu'un professeur invitait ses élèves à écrire avec une tablette devant une œuvre d'art, en troisième, que d'autres employaient la liseuse pour écrire dans l'œuvre et ainsi s'approprier activement les textes analysés avec une classe de première L. J'en passe et des meilleurs. En conclusion, on peut donc dire que non, les humanités ne sont pas mortes. Non, l'imprimerie n'a pas remplacé l'écriture manuscrite. Et l'écriture numérique, si elle est bien virale, n'est pas pour autant parasite. L'écriture manuscrite, l'imprimerie, la culture numérique et la littérature vont évoluer, s'enrichir les unes auprès des autres, tout en continuant de cohabiter.
Même si autour de ce micro, il n'y a que des professeurs de français, il serait stupide, voire dangereux, de nous limiter à l'espace culturel franco-français. Encore une fois, Adeline, dans son édito, nous a ouvert le chemin en associant notre réflexion sur l'écriture à l'actualité américaine. Celle-ci nous interroge, nous préoccupe également. Nous avons donc pensé que la rubrique des notes de lecture devait vous proposer, chers auditeurs, une synthèse des informations à notre disposition dans la presse d'outre-Atlantique. C'est Angélique qui s'est attelée aujourd'hui à ce travail.
Oui, travail qui reprend un débat vraiment très 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 houleux dans la presse depuis qu'au printemps dernier, 45 États américains ont annoncé l'abandon de l'écriture cursive. Alors cela a fait couler beaucoup d'encre depuis la rentrée, ce qui a pu sembler une plaisanterie, un poisson d'avril, selon Bernard Pivot, interviewé dans la Dépêche de mars 2013, semble en fait être la reconnaissance officielle d'un état de fait. Au pays de Steve Jobs, Bill Gates et Mark Zuckerberg, les cahiers jaunis où les courbes déliées semblent danser deviennent aussi étrangers que les anciens hiéroglyphes égyptiens, constate le Washington Post. Première précision toutefois, afin d'éviter tout amalgame, hein, ce n'est pas l'écriture manuelle qui est abandonnée, mais cursive. Celle-ci est considérée comme une pratique difficile et superflue. Elle devient donc optionnelle. L'écriture manuelle est conservée, mais en script ou caractère d'imprimerie. Or, c'est cette écriture que les petits Américains apprennent en premier à l'école et avec laquelle ils s'expriment habituellement à l'écrit, c'est-à-dire quand ils n'ont pas recours au numérique. Il y a en fait un peu comme deux langues différentes pour la main, et la cursive apparaît pour eux comme une langue seconde. Beaucoup de pays d'Europe semblent marquer une évolution dans les codes de la cursive aussi. Je vous conseillerais à ce sujet le blog Charivari, très riche, très bien documenté, dont vous trouverez toutes les références dans le document d'accompagnement de l'émission. Je reviens à mon propos sur les États-Unis. Donc, la publication des nouveaux standards américains de l'enseignement à la rentrée par le ministère fédéral de l'Éducation montre même en fait qu'il existe trois langues de l'écrit, en ordre d'importance le numérique, puis le script et enfin la cursive. Alors je me suis intéressée à ces standards, ils fixent le niveau de maths et d'anglais, mais dans la pratique de la langue, donc l'anglais, rien n'est précisé quant à la maîtrise de l'écriture, alors que la maîtrise d'un clavier doit être acquise à la fin de ce qui correspondrait à peu près à notre CM1. Selon Steve Graham, professeur de pédagogie à l'Université d'Arizona, la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est de taper sur un ordinateur. Volonté nette affichée, la compétitivité des élèves. Ce n'est pas tant la forme d'écriture qui compte, mais le contenu du texte écrit. Et quand les tests annuels administrés aux élèves sont en passe d'être tous informatisés, on ne peut que constater que la cursive n'appartient déjà plus à ce système scolaire. Ce que confirme aussi la réaction de la majorité des jeunes Américains interrogés par le magazine Junior Scholastic, 3000 sur 3900, répondent « Oh my God, forget cursive, it's dead », écrit en SMS, OMG pour « Oh my God », c'est-à-dire « Oh mon Dieu, oubliez la cursive, c'est mort ». Mais les États-Unis cultivent le paradoxe. Si l'intérêt de l'écriture cursive n'est reconnu dans le pays que pour signer des documents, un sondage Harris effectué en juillet dernier montre que 89% des adultes estiment pourtant nécessaire d'apprendre à lire et à écrire en cursive. Cette forme d'écriture qu'ils maîtrisent mal pour la plupart. Alors, j'évoquerai simplement, sans rentrer dans le détail, le débat politique qui oppose notamment la Caroline du Nord, soutenue par l'Alabama, la Géorgie, le Massachusetts et la Californie, aux autres États. L'élu local de Caroline du Nord, élue républicaine, Patricia Hurley, a en effet adopté une loi dite « back to basics », c'est-à-dire « retour aux fondamentaux ». De ce fait, le New York Magazine évoque une croisade en faveur de l'écriture cursive qui ne serait qu'une prise de position politique conservatrice. Pro ou anti-cursif, en tout cas, dans toute la presse, les réactions abondent. Au milieu de ce déferlement de réactions, j'ai essayé de rester la plus objective possible, faisant taire ma première réaction d'incrédulité pour pouvoir concevoir les arguments des deux camps. Pourquoi, finalement, l'abandon de cette écriture aux courbes souples est-il si douloureux ? Les pleins et les déliés, appris à l'école, et c'était une norme à l'époque, ont été abandonnés lors du passage du stylo à billes. L'histoire de l'apprentissage de l'écriture évolue nécessairement en fonction des innovations technologiques. Preuve en est, Bic, la célèbre marque, a proposé depuis 2012 son ardoise numérique à destination des élèves. En fait, renoncer à cet apprentissage, c'est un peu oublier qui nous sommes pour deux raisons différentes. L'écriture, la vraie, a un ancrage culturel que nous avons peur de perdre en la perdant. Ce, surtout sur ce vieux continent dans lequel nous sommes. Nous sommes profondément attachés à notre passé et les USA, eux, sont résolument tournés vers l'avenir. Cette écriture nous relie à notre histoire, aux textes célèbres et aussi à une correspondance épistolaire. Elle relève de l'intime. Cette perte culturelle se double en effet d'une perte d'expressivité. Le lecteur peut en effet reconnaître l'auteur d'un message manuscrit. Il reste sensible au contexte émotionnel dans lequel le message a été écrit. Ça, c'est pas du tout les graphologues qui nous diront le contraire. L'écriture sur écran renvoie une image plus distante et ne permet pas de retranscrire les émotions, de façon aussi sensible. Alors, quelle est l'utilité maintenant de cette écriture dans l'enseignement ? C'est un des apprentissages les plus longs. Pourquoi ne pas le simplifier et fournir à nos élèves, qui sont, eux, des digital natives, contrairement à nous, des outils numériques adaptés ? Si ces outils numériques souffrent d'une stigmatisation négative, c'est parce que, selon certains chercheurs, ils ne permettraient pas aux enfants de construire une réflexion individuelle. Les chercheurs montrent toutefois que les enfants en contact avec les TIS développent une pensée pragmatique. Et notre société fonde de plus en plus ses échanges sur la rapidité de la transmission et l'abolition des frontières. Au centre du système actuel, l'intelligence collective est la première source d'interaction entre les individus. La maîtrise de la technologie paraît absolument nécessaire dans la mesure où elle est le support et le promoteur du savoir collectif. Après tout, si nous reconnaissons l'utilité de certains dispositifs numériques pour aider les 10, par exemple, les élèves souffrant de troubles spécifiques du langage, pourquoi ne pas les généraliser ? Pourquoi les autres élèves n'y trouveraient pas leur compte aussi ? Essentiellement parce que l'acte de lecture et l'acte d'écriture vont de pair. Il est très difficile, par exemple, à apprendre un enfant à compter sans lui faire manipuler des objets. De la même façon, la lecture, qui est très abstraite, a besoin de l'ancrage du corps pour se construire. Selon plusieurs scientifiques, savoir écrire à la main, c'est savoir lire. C'est ainsi que l'expliquent Jean-Luc Velay et Marie Clonchamp, chercheurs au CNRS, interrogés par Le Point. Je les cite. « Quand l'œil lit, le cerveau écrit à la main. Lire, c'est écrire. Quand on lit, plusieurs zones du cerveau simulent l'acte d'écriture manuscrite. Lorsqu'on écrit avec un clavier, c'est différent. Quelle que soit la lettre choisie, le geste est identique, frapper une touche. Ces découvertes scientifiques récentes ne font que confirmer d'autres postulats, notamment l'intuition de Maria Montessori en 1935. Elle racontait comment l'écriture précédait la lecture chez les enfants. En parlant de ses petits élèves, elle dit « Ce fut près de 6 mois plus tard qu'ils commencèrent à comprendre ce qu'était la lecture, et ce fut seulement l'associant à l'écriture. » Alors si je la cite, ce n'est pas au hasard, puisque de très nombreuses écoles privées américaines adoptent ces préceptes et incluent de ce fait l'écriture cursive dans leur programme. Je reviens sur les élèves ayant des troubles du langage, et je ferai référence cette fois-ci à une méthode basée sur l'association à chaque son d'un geste. Cette méthode phonético-gestuelle élaborée par Suzanne Borel-Messoni permet à des enfants, même en grande difficulté, d'apprendre à lire. Cette méthode préviendrait ainsi les dyslexies et dysorthographies. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le geste vient aussi au secours de la compréhension. Alors après tout, si la main n'est qu'une étape dans l'histoire de l'écriture, vieille pourtant de 5500 ans, le clavier ne peut-il être lui-même conçu que comme un outil passager ? Donc pourquoi finalement penser ces formes d'écriture en termes d'opposition au lieu d'envisager de les combiner et d'accepter qu'il s'agit de deux formes d'expression différentes qui n'ont pas les mêmes enjeux ? Écrire a permis à l'homme d'augmenter ses capacités cognitives en fixant sa pensée et ses symboles. Le numérique permet de les globaliser et de les transformer. En ce sens, elle peut faire émerger une nouvelle forme de pensée. Elle serait alors davantage une forme de communication nécessaire que d'expression sensible. Veillons donc à ce qu'une dialectique habile s'opère entre les deux.
Les
Chacun d'entre nous semble attaché à une pratique de l'écriture manuscrite qui associe le geste de la main à la pensée humaine dans une vraie complémentarité harmonieuse. Pourtant, nous avons également soutenu ici que cette compétence n'était pas exclusive et pouvait être relayée par d'autres activités utilisant des instruments propres à notre époque. Si je situe ce préambule dans le temps, c'est qu'il constitue précisément l'axe central de la démonstration que va nous livrer Philippe dans sa rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant ». En effet, Philippe, tu estimes que le professeur peut et doit enrichir l'expérience d'écriture de ses élèves grâce aux nouveaux outils mis à sa disposition.
En effet, Serge, si on regarde d'un petit peu plus près la chronologie, on s'aperçoit que dès les premiers usages du numérique en classe, la lecture et l'écriture ont été les deux axes prioritaires de recherche pour les enseignants. Bien évidemment, l'outil le plus utilisé fut et demeure le traitement de texte utilisé par les professeurs pour la préparation de leurs cours. Mais cet outil ne doit pas en masquer d'autres, parfois moins connus, mais qui représentent néanmoins des pistes à explorer pour, nous demandent les programmes, une pratique régulière, continue et variée de l'écriture. Je souhaiterais donc évoquer, suivant une progression chronologique, les blogs, puis le cas des forums, et enfin celui des wikis. Cependant, je désire le faire sans, à aucun moment, j'y tiens, vouloir prouver que ces outils disqualifient l'écriture manuscrite. Bien au contraire, je voudrais m'attacher à souligner leur complémentarité. Un des outils d'écriture qui a connu un succès retentissant avant Facebook et autres Twitter fut le blog. Enfin, la publication se mettait à la portée de tous. Ce fut un raz-de-marée. Chacun y alla de sa petite page pour principalement évoquer une intimité qui aurait bien souvent relevé de la sphère de l'intime et du journal du même nom. L'arrivée des réseaux sociaux a pris le relais et le blog est retourné à un certain anonymat. Pourtant, il reste un outil intéressant pour une écriture régulière de textes courts. Beaucoup d'enseignants utilisent des blogs lors de voyages scolaires où chaque élève produit quotidiennement un compte-rendu de visite, partage une découverte et tant d'autres choses. Le blog peut également être dédié à des travaux de synthèse en vue d'un examen, à un journal de collégien ou de lycéen. L'écriture se veut ici publique et donc motivante, régulière et donc source de progrès. En cela, elle complète celle plus traditionnelle de travaux faits en classe et fait percevoir à nos élèves la diversité des enjeux liés à l'écriture. Autre espace d'écriture publique, le forum. Beaucoup d'entre nous les fréquentent, souvent, pour répondre à un problème ou trouver une solution auprès de spécialistes. Mais le forum peut être investi d'un large potentiel pédagogique. Tout d'abord, parce qu'il est un lieu où les idées se construisent, s'élaborent progressivement à travers les réflexions des uns et des autres. De cette manière, il conserve l'aspect individuel, oserais-je dire individualiste, de l'écriture, mais repose sur une approche collaborative. J'écris pour donner une idée et j'écris pour les autres. Un autre avantage du forum est qu'à tout moment, un élève peut revenir sur une remarque antérieure et qu'il n'est pas contraint, contrairement au cours d'ailleurs, par l'ordre chronologique. Par cela, le forum favorise beaucoup l'élaboration d'une démarche argumentative. Chacun propose ses arguments en lien avec ce qu'il a lu précédemment. Le forum a ainsi une chronologie qui lui est propre, qui permet une plus grande souplesse que celui contraint de la classe. Certes, il est impératif d'apprendre à produire un texte en temps limité, mais il est également intéressant de donner à tous le temps de concevoir des choses, notamment dans les phases exploratoires. Le forum peut ainsi devenir un lieu où se prépare le cours, où s'élabore une lecture analytique. L'écriture y devient le témoin d'une pensée collective en expansion qui nourrira la séance. Cette dernière piste m'amène tout naturellement vers un autre outil, le wiki. Curieux petit nom dont je ne doute pas pour beaucoup qu'il rappelle et qu'il fasse écho à celui d'une fameuse encyclopédie collaborative Wikipédia. C'est que l'outil sur lequel repose cette encyclopédie est, à proprement parler, un wiki, c'est-à-dire un logiciel permettant à plusieurs personnes de modifier un seul et même texte. Comme si plusieurs élèves pouvaient écrire sur une seule et même feuille en classe et de chez eux. En outre, chaque version d'une page d'un wiki est enregistrée et à tout moment, l'enseignant peut revenir à un état antérieur du texte. Dès lors, s'offre un large panel d'activités d'écriture où le maître mot sera en fait réécriture. Apprendre à nos élèves qu'un texte s'amende, s'enrichit, se revoit, se corrige. Et tout cela grâce à quoi ? Grâce à la collaboration, grâce à une communauté d'écriture. Au-delà, on peut même penser à l'écriture collaborative d'un roman, écrire à plusieurs mains. Voilà une pratique quasi impossible sans le numérique et qui, une fois encore, vient compléter les activités menées en classe habituellement. C'est aussi une manière d'interroger avec les élèves les notions d'auteur, de texte et tant d'autres qui fondent nos représentations et notre culture. J'espère vraiment que ces quelques mots vous ont donné l'envie d'expérimenter ces outils dont la plupart sont présents au sein de nos ENT. Mais j'en vois par-ci par-là encore parmi vous qui voudraient encore plus et qui se disent que les outils envisagés ne permettent pas une écriture simultanée sur le même support. Eh bien, je leur conseille d'aller faire un tour sur le site Framapad. Ils y découvriront gratuitement un service de création de pages où chaque élève peut se rendre, écrire en même temps que ses camarades, chacun d'entre eux étant identifié par une couleur d'encre. J'ai suscité votre curiosité ? Alors je range ma plume, ou plutôt mon micro, et vous souhaite une bonne découverte.
Les souris et les lettres.
Décidément, la variété des pratiques d'écriture préoccupe nombre d'entre nous autour de ce micro. Nous allons le constater encore une fois dans la rubrique « Il témoigne », animée successivement par Jean-Luc et Angélique. C'est l'apparente concurrence entre la main et le clavier qui est au centre de leurs investigations. Concurrence, le mot ne semble même plus d'actualité, si, comme dans la majorité des États américains, la main est contrainte de se soumettre à la machine en abandonnant l'écriture cursive au profit de celle du clavier. Pour éclaircir la situation en France, Jean-Luc, tu as mené l'enquête en interrogeant successivement tes élèves, puis deux enseignantes d'école primaire.
Oui Serge, donc j'étais curieux après effectivement avoir écouté les informations savantes d'Angélique sur l'importance de l'écriture cursive, j'étais curieux d'avoir une vision peut-être plus terre-à-terre et donc d'avoir le ressenti des élèves et aussi des spécialistes de cet apprentissage que sont les instituteurs, professeurs des écoles comme on dit maintenant. Alors pour les élèves, j'ai fait un petit sondage, un sondage maison modeste, qui a porté sur une centaine d'élèves pour appréhender leur utilisation de l'écriture cursive hors temps scolaire. Bon, je précise hors temps scolaire, puisque l'école est quand même un monde très à part, où on écrit encore beaucoup de façon manuscrite, mais je pense que ça reflète pas vraiment les pratiques de la vie quotidienne et du monde du travail. Alors les résultats donc d'un sondage un petit peu difficile à dépouiller, peut-être parce que je suis pas un professionnel non plus de la conception du sondage, donc j'avais pas forcément très très bien conçu mon outil. Mais enfin, donc les résultats auxquels j'arrive sont les suivants. Il semble montrer, donc de la part des lycéens, un attachement important à l'écriture manuscrite, puisque 65% estiment l'utiliser souvent, cette écriture, alors que 30% répondent qu'ils ne l'utilisent que rarement, hors temps scolaire, et 5% jamais quand même, 5% jamais. Ces réponses peuvent paraître assez rassurantes, car elles diffèrent finalement peu des résultats donnés pour les adultes, mais je précise, les adultes vus par les lycéens, c'est-à-dire en fait, sans doute, ils ont considéré la façon dont leurs parents écrivaient ou n'écrivaient pas, puisque pour eux, donc 70% des adultes écriraient régulièrement en cursive, 30% rarement. Quant à abandonner cet apprentissage pour leurs propres enfants, là, ils sont en revanche, la réponse est très claire, très tranchée, 100% des lycéens disent non. Hein, pour eux, c'est quelque chose de totalement impossible à imaginer. La deuxième partie de mon sondage visait à essayer d'explorer un petit peu l'usage qu'ils avaient de cette écriture. Alors c'était ça qui était un peu difficile à dépouiller, mais bon, cependant, l'usage qu'ils en ont laisse apparaître une conception très utilitaire, en fait, de l'écriture manuscrite. Ce qui l'emportait dans les usages que j'ai relevés, c'est la liste des courses, la prise en note sur un pense-bête, des choses qui arrivent, donc des choses très très prosaïques, qui arrivent bien loin, mais bien loin devant le message à des proches ou une lettre personnelle. Une autre caractéristique évidente aussi qui apparaît pour eux, c'est que l'écriture cursive, pour eux comme pour les adultes, c'est une écriture en fait qui sert à faire preuve, donc on s'en sert pour faire des chèques ou pour les papiers administratifs. Donc c'est une écriture qui revêt un caractère officiel, solennel, c'est une écriture qui fait preuve. Mais en fait, ça s'arrête un peu là. Parce que dans la pratique hors temps scolaire, finalement, il semblerait qu'elle soit privilégiée pour des écrits très courts, très ponctuels. Et, alors que finalement, pour les écrits beaucoup plus longs, ils s'accordent tous à penser qu'ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides au clavier. Donc on a une analyse finalement beaucoup plus fine et plus complexe à faire sans doute, mais enfin, j'en suis arrivé là. Pour affiner les choses... je leur ai annoncé donc la bonne nouvelle qu'Angélique nous a communiqué tout à l'heure, à savoir que 45 États des États-Unis avaient décidé d'abandonner l'apprentissage de l'écriture cursive dans les écoles primaires et de s'en tenir donc à un apprentissage du script et puis surtout à développer finalement la pratique de l'écriture au clavier. Et donc j'ai avisé les élèves de cette chose-là. C'était une classe de première ES et je leur ai proposé donc de réfléchir à ça, de me donner leur avis, etc., de me donner leur ressenti. Alors bon, j'étais très étonné de leur réaction parce que tout de suite ils se sont sentis très concernés. C'est-à-dire qu'en fait d'eux-mêmes ils ont eu envie de faire un brainstorming. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient écrire au tableau et me prendre mon stylo, etc. Et donc ils ont noté plein d'idées. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, mais vraiment ils étaient très très enthousiasmés par cette question. Et puis, au bout d'un moment, donc je leur ai demandé s'ils voulaient bien qu'on fasse une interview sur ce sujet, s'ils voulaient bien s'exprimer. Donc, ils ont accepté et ça va donner ce que vous allez entendre là.
Donc, comme je vous l'ai dit, vous savez que 45 des États des États-Unis ont décidé de ne plus faire apprendre l'écriture cursive, c'est-à-dire l'écriture à la main en attaché, aux enfants. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous, en tant que lycéen, si vous pensez que c'est une bonne idée, si vous pensiez au contraire que l'écriture cursive était très importante. Voilà, quel est votre point de vue ?
Moi, ça me révolte un peu, je suis plutôt contre. Parce que certes, il faut savoir avancer avec son temps et l'écriture informatique permet de gagner en rapidité. Et c'est vrai que dans le monde de l'emploi et du travail, ça sera de plus en plus présent. Mais l'écriture cursive, manuscrite, reste, c'est la trace de l'humanité, c'est authentique. Par exemple, si on passe des accords, ou même si on m'envoyait des cartes postales ou des lettres de motivation, il y a certaines choses qui, pour ma part, je pense, devront toujours être écrites à la main. Donc, voilà.
Voilà, donc vous trouvez ça complètement hallucinant qu'on puisse envisager de faire disparaître ce moyen d'expression.
Oui, je trouve ça vraiment très surprenant et je me demande à l'avenir comment ils vont faire parce que l'informatique peut toujours avoir des failles. Donc je me demande comment vont faire ces enfants s'ils ne savent pas écrire, tout simplement.
Très bien. Est-ce que quelqu'un peut compléter ou au contraire a un avis divergent?
Oui, ouais. Moi, je pense que justement il faut un peu des deux pour justement que le monde avance. Il faut garder la trace, des traces, écrire à la main. Et il faut aussi qu'on sache écrire via un ordinateur, parce que malgré tout, il y a du pour et il y a du contre dans les deux sens, puisque l'écrit, ça peut être détruit au fur et à mesure du temps, ou par exemple si c'est brûlé, tandis que l'ordinateur, on a plus facilement une trace, on peut plus facilement l'envoyer, plus facilement le rechercher, tandis que ça reste un papier, le reste, c'est... Les deux sont importants, puisqu'il faut une trace un peu des deux.
Ce serait complémentaire, donc voilà, faut qu'on continue à apprendre à écrire en cursive, mais il faut aussi apprendre, développer l'apprentissage du clavier.
C'est ça.
D'accord. Un autre point de vue non? Bah, je vous remercie, en tout cas c'est très bien ce que vous avez exprimé. Merci.
Donc, comme vous l'avez entendu, j'étais plutôt rassuré par les interventions de mes deux lycéennes et surtout finalement aussi assez impressionné par leur capacité à improviser un discours très très cohérent. Ça m'a vraiment fait bien plaisir. Et j'ai donc voulu en savoir plus et j'ai pris mon smartphone de pèlerin et je suis parti interviewer deux institutrices que je connais bien, parce que c'était en fait les institutrices qui ont appris à lire et à écrire à mes propres enfants. Et donc, je leur ai également à elles annoncé la bonne nouvelle. Elles ont été atterrées. Je leur ai proposé de revenir une semaine plus tard pour parler avec elles de cette chose-là et les interviewer. Et voici donc ce qu'elles m'ont confié. Bonjour, je tiens tout d'abord à vous présenter. Vous êtes deux institutrices expérimentées, deux professeurs des écoles, comme on dit maintenant. Vous exercez dans le Cher, à Fargeon-Septène, pour être précis. Et je vous remercie d'avoir bien voulu donc répondre à mes questions. Donc, comme je vous l'ai dit, je serais très très curieux de connaître votre point de vue de spécialiste sur la décision comprise 45 des États des États-Unis de ne plus faire enseigner l'écriture cursive dans leurs écoles primaires.
Alors moi, ce qui me semble dangereux, ce serait de supprimer complètement l'apprentissage de l'écriture manuscrite au profit de l'usage exclusif du clavier. Et j'ai peur qu'à la longue, on arrive à cette situation-là aux États-Unis. Parce qu'apprendre à écrire, c'est développer des tas de compétences, c'est développer des habiletés motrices, c'est apprendre à l'enfant à se repérer dans l'espace, c'est apprendre à contrôler ses gestes, c'est apprendre à se réguler. Alors, pourquoi préférer l'écriture cursive à l'écriture script? Pour moi, l'écriture cursive a un lien bénéfique avec l'apprentissage de la lecture. Lorsqu'on lit les lettres, je trouve que la notion de syllabe, la combinatoire, se met beaucoup plus facilement en place. Et la notion de mot me paraît aussi beaucoup plus évidente lorsqu'on écrit en cursive, puisqu'on a des espaces qui séparent régulièrement les mots entre eux.
D'accord. Et est-ce que quelqu'un voit un autre inconvénient à cet abandon de la cursive?
Alors oui, on peut aussi évoquer la vitesse d'exécution, parce que quand on écrit en script, on est amené à lever le crayon très souvent et à faire des pauses et des arrêts très fréquents, alors qu'en cursive, forcément, on va écrire plus vite. Donc ça pourrait rendre les quantités d'écrit beaucoup plus laborieuses pour certains enfants, notamment de jeunes enfants, et peut-être à plus ou moins long terme, les placer dans des situations délicates quand il faut écrire de façon manuscrite. Et il y a un autre facteur qui n'est pas du tout un argument pédagogique, mais qui me paraît quand même intéressant, c'est que les enfants personnalisent très très vite, dès les plus jeunes classes, leur écriture. Et donc ça fait un petit peu partie de leur identité, de leur personnalité, et que si on maintenait uniquement le script, probablement on arriverait à des écrits beaucoup plus stéréotypés ou impersonnels, et donc ce serait un peu dommage de perdre ça.
D'accord. Donc pour vous, en dépit d'évolution vraiment inéluctable de la société, c'est un apprentissage qui reste vraiment impératif et très très, très utile.
Impératif, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait vraiment dommage de perdre, oui, cette valeur-là et ce côté-là de l'enseignement, quoi, qui fait partie intégrante.
Je pense que c'est une étape nécessaire. Évidemment que les enfants seront plus tard utilisateurs de clavier, mais je pense que dans leur développement, ils ont besoin de cette étape-là.
D'accord. Bien, je vous remercie. Non, personne.
Non.
Bon, ben merci, je pense que c'est
merci
très clair.
À vous.
Merci.
Effectivement, Jean-Luc, il est souvent salutaire et rassurant de donner la parole aux personnes à qui l'on a confié la formation de nos propres enfants. Mais Angélique, elle, ne semble pas a priori être venu pour nous rassurer en abordant une forme d'écriture au clavier qui fait pousser des hauts cris chez la majorité des adultes. Je veux parler des SMS. Et elle commence franchement à nous inquiéter quand elle affirme que ce que nous considérons souvent comme un sous-langage peut devenir un outil pédagogique et même un instrument d'écriture poétique. Allons, Angélique, ressaisis-toi.
Pas du tout, Serge. En fait, je dois avouer que je me suis vraiment pris au jeu il y a quelques années lorsque mes cousines adolescentes m'envoyaient des messages cryptés et j'essayais de leur répondre de la façon la plus codée possible. Du coup, je me suis sentie un petit peu désemparée, assez seule, lorsqu'en salle des profs, certains de mes collègues s'insurgeaient contre les SMS, arguant que les élèves perdaient vraiment tout bon sens orthographique. Alors bien sûr, hein, je suis moi-même fortement agacée lorsqu'ils confondent copie de français et téléphone portable. Mais ce langage ludique, parce qu'il est ludique, me semble intéressant. Rassure-toi, Serge, je ne me suis pas mise à faire davantage de fautes depuis que je m'adonne à cette écriture pleine de vices. J'avais envie de l'introduire à mes cours, mais ponctuellement, pour que mes élèves prennent justement conscience de la spécificité de cette nouvelle langue. Alors si je parle de façon polémique de nouvelle langue, c'est volontaire, car sur Internet, à l'instar de l'anglais et de l'espagnol, vous pouvez aisément trouver de nombreux dictionnaires permettant d'encoder ou de décoder vos messages. Alors je continue mes recherches, et je trouve l'idée exacte d'activité que je cherchais. Phil Marceau est un écrivain français. Il a créé une variante plus élaborée du SMS, le PMS. Cela consiste à abréger le français en utilisant la phonétique, les chiffres et parfois même les symboles. Son but est double, jouer avec la langue et améliorer des écrits défaillants grâce à une meilleure maîtrise de la discrimination auditive. Je visite son site web et je trouve des cours de langage PMS ainsi que des grands textes traduits. La Fontaine, Baudelaire, il a même traduit Le dernier jour d'un condamné. Alors, si un « oh, quand même » m'échappe, la lecture des textes franchement m'amuse. Après tout, pourquoi ne pas essayer? C'est ainsi que je me lance et je propose cette activité à mes élèves. Par groupe de trois, à eux de traduire une fable de La Fontaine. Je leur explique les règles établies, pas de SMS anarchique, tout le monde a recours au même encodage phonologique. Alors, ils me regardent un petit peu en souriant, l'air un peu condescendant. L'activité leur semble d'une simplicité évidente. Super. Je distribue les textes et je constate que leur enthousiasme ne faiblit pas. Bons joueurs, ils reconnaissent que la langue du 17e n'est pas facile. Ils constatent que pour bien traduire les mots, il faut les comprendre et donc les lire. À la fin d'une heure de traduction, chaque élève a tant lu et relu son texte qu'il le connaît presque par cœur. Je propose la restitution du travail sous forme d'affiches. Ils sont enchantés, et leurs camarades aussi, quand ils découvrent ces travaux dans la cour. Ils vont lire les textes, et le contraste culturel les amuse. Ils me demandent même si je ne veux pas leur donner les prochains textes à étudier sous cette forme. Selon eux, ils le liraient mieux. Bon, je prends la boutade pour ce qu'elle est, mais cette activité modeste, compte tenu du temps que je lui ai accordé, me pousse à m'interroger. Une petite réflexion théorique s'impose et les réflexions de Monica Macedo-Roué, titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication dans l'Agence nationale des usages des TIS, permet de confirmer certaines de mes intuitions. Vous trouverez son propos sur le site de l'émission. Selon plusieurs études, le langage SMS n'est pas l'ennemi des écrits scolaires. Au contraire, le contact des élèves avec le texte écrit via les messages SMS semble avoir un impact plutôt positif sur leurs compétences de lecture. En particulier, ils ont démontré une capacité accrue à produire des interventions de lettres et de syllabes, à générer des rimes, à générer des mots reliés sémantiquement. On a constaté également une corrélation positive entre le nombre de messages envoyés et reçus et les progrès en lecture et en orthographe. Selon les chercheurs, ces résultats s'expliquent par le contact des élèves avec l'écrit, un contact encouragé par la pratique du SMS. Le caractère informel et moins contraignant du SMS peut aussi faciliter l'appropriation du code écrit par des jeunes dyslexiques. Parce que cette approche est surtout décomplexée. Elle pourrait permettre de ce fait de rattacher certains élèves dont les compétences écrites sont souvent mal maîtrisées. Alors attention aux amalgames, faire cours sur les SMS de façon stricte, en oubliant ce côté ludique, pourrait être vécu comme une transgression de ma part. Les élèves perçoivent l'utilisation des messages SMS comme personnel. Ils valorisent le côté décontracté et informel de ce message. Il faut donc leur laisser cette liberté-là aussi. Une dernière précision d'importance toutefois, c'est la connaissance des codes SMS qui est liée à de bonnes performances, non pas la fréquence d'envoi des messages. Il faut démontrer que l'on sait jouer avec le langage et utiliser un code partagé par d'autres utilisateurs, ce qui se rapproche sur certains aspects du code que l'on apprend à l'école.
Les souris et les lettres.
Décidément, cette émission est pleine de surprises. Car après l'intervention iconoclaste d'Angélique, voici Baptiste, venu lui aussi tout exprès de la Guerche sur l'Aubois, pour nous proposer comme site du jour Scribus. Franchement, Baptiste, que vient faire un correcteur d'orthographe et de grammaire en ligne dans cette émission consacrée aux façons de combiner l'écriture manuscrite et l'écriture numérique ?
Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi que ça semble plus orienté vers le numérique que vers le manuscrit. Malgré tout, ce site Scribens a un intérêt qui m'a semblé non négligeable et bon, alors, je précise, hein, vous l'avez compris, c'est une application en ligne de correction orthographique. Et son succès auprès des élèves repose sur une grande simplicité, ainsi que sur une typologie des erreurs, et qui est claire et visuelle. Il ne s'agit néanmoins pas d'une solution miracle, vous vous en doutez, et comme pour le correcteur intégré à vos traitements de texte habituels, l'enseignant que nous sommes et que vous êtes doit lutter contre la confiance aveugle faite aux propositions du logiciel, et bien évidemment rappeler sans cesse aux élèves qu'une machine est incapable de comprendre un texte. Malgré tout, pour utiliser Scribens, il suffit de coller le texte que vous voulez faire corriger dans l'emplacement central du site, ou bien d'écrire directement et de cliquer sur « Analyser ». Les erreurs repérées apparaissent alors soulignées de couleurs différentes, permettant d'identifier s'il s'agit d'un problème de grammaire, de ponctuation, d'orthographe lexicale ou encore de conjugaison. Le site se veut particulièrement fiable et pédagogique, car en plus de simplement signaler les erreurs, il livre à chaque fois, ponctuellement, des explications ou même des pistes de réflexion, notamment en ce qui concerne les règles générales de ponctuation, qui sont souvent totalement ignorées par nos élèves. Pour le reste, il faut bien admettre qu'un certain nombre d'erreurs ne sont pas repérées par le logiciel, qu'il faut vite relativiser auprès de nos élèves l'indication qui apparaît une fois les corrections effectuées par le site, texte correct. Alors bien évidemment, c'est correct d'un point de vue de l'analyse qui a été effectuée. Au-delà de ces quelques précautions et ces quelques limites, la ressource joue son rôle, dans la mesure où elle attire l'attention des élèves sur un certain nombre de faits de langue. Elle impose une relecture, qui est trop souvent évacuée, en raison du manque d'accompagnement de cette relecture. On leur demande souvent beaucoup d'autonomie dans cette relecture. Là, je parle indifféremment pour les textes tapés ou les textes manuscrits, en fait, le travail elle-même. Il est également possible de faire de cette ressource un support riche et complet pour travailler la langue en salle informatique, par exemple. En effet, le logiciel donne accès à des règles d'orthographe, des règles de grammaire illustrées par des exemples. Et il y a également intégré un outil de conjugaison, un dictionnaire des synonymes qui est particulièrement fourni également. De plus, donc, par son côté didactique, vous verrez au fur et à mesure l'orthographe et la grammaire de vos élèves s'améliorer. L'idéal étant bien sûr qu'ils s'approprient l'interface et en aient un usage autonome, régulier, pour les amener à améliorer leur écriture manuscrite, scolaire, et même éventuellement personnel.
Les souris et les lettres.
Vous avez bien entendu, chers auditeurs, la dernière virgule sonore de cette 15e émission des souris et des lettres vient de retentir. Le moment est donc venu de nous séparer. Nous séparer, pas totalement. Car vous savez bien que vous pouvez écouter et réécouter cette émission en totalité ou par rubrique sur le site de l'Académie Lorléans-Tours dans la section Lettres. Vous pouvez aussi enrichir votre réflexion grâce aux bonus et aux liens placés sur ce même site. Vous pouvez enfin nous retrouver sur notre page Facebook. Et comme un plaisir ne vient jamais seul, je vous informe du prochain enregistrement d'une émission spéciale « Lettres et culture de l'Antiquité », joliment intitulée « Lingua Ferens, Lingua Moens », consacrée, comme vous le devinez, à l'étude des langues anciennes. En attendant ce rendez-vous prometteur, il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous et à vous dire à très bientôt sur notre web radio.